En diligence. J'ai voulu revoir l'autre jour cette bonne vieille ville de Saint-Martin-Joux, où le gouvernement me procura, après les 2 ans d'école, l'honneur et la joie de tenir garnison. Le décor n'a pas changé, comme dans ces pauvres théâtres de province, où les 5 actes des mélos se jouent sempiternellement devant la même toile de fond. C'est toujours la large place pavée de cailloux pointus, où sous les ormeaux à peine moitié pourris, les paysannes des environs vendent des hôtés de légumes. Quelle aquarelle quand le grand soleil d'août l'inondait d'une pluie d'or. Ce sont les 8 fiacres lamentables alignés à la queue leu-leu, le long du trottoir frangé d'herbes luisantes. 8, oui, le nombre n'a pas varié depuis 10 ans. Ce sont les rues étroites où les toits d'ardoise se touchent, le jardin public avec son lac où les cyprins rouges pullulent, et ces rochers artificiels que domine un kiosque jaune. La nature revue et corrigée par Bouvard et Pécuchet. Les boutiquiers ont gardé leurs cocasses enseignes que le vent secoue implacablement. Les pains de sucre bleu, les chapelets de chandelles, les parapluies en zinc, les plats de cuivre des perruquiers. Et en regardant les noms familiers qui sont peints au-dessus des devantures, je me suis rappelé, comme si j'avais feuilleté un album de caricatures, tous les méchants tours, toutes les farces hilarantes que les camarades jouèrent sans trêve aux paisibles bourgeois. Je me suis rappelé entre toute la comique aventure du galant Champ Doré, qui dut, bien malgré lui, acheter une diligence, un beau denier comptant. Une de ces vénérables patâches à 3 compartiments, où nos pères se tassaient philosophiquement, et qui barraient toute la largeur d'une route de leur masse énorme. Mais commençons par le commencement. Il y avait alors au milieu de la rue des Grands Fossés un carrossier qui maquignonnait des rosses vicieuses et confectionnait des voitures neuves avec d'antiques guimbardes détraquées, ramassées pour 2 sous de droite et de gauche. Un peu usurier, très fripon, laid, malpropre et avare, comme s'il eût été circoncis en naissant, Honoré Caminade se permettait d'être conseiller municipal et de posséder pour fille la plus adorable blonde devant laquelle les amoureux aient jamais récité des actes de tendresse. Déluré à soi avec cela. Une Margot de 18 ans, qui ne baissait pas les paupières sous les regards ardents des hommes, qui savait retrousser ses jupes d'un geste savant les jours de pluie, et dont les yeux glauques, marqués de lassitude par les calmes nernes profonds, les lèvres charnues, curieuses de tout goûter, semblaient déjà mendier quelques fruits de ce fameux pommier qui tenta notre gourmande mère Ève. Le matin, lorsque le régiment revenait de l'exercice, tambour, clairon, musique en tête, comme dans la chanson, elle apparaissait derrière ses volets entrebâillés, presque dévêtue sous son peignoir de percale rose, les cheveux ramassés sur la nuque ainsi qu'une poignée rousse d'épi, et montrant ses dents nacrées en un vague sourire. Tous les sous-lieutenants prenaient le sourire pour eux. Tous, par une machinale habitude, levaient les yeux en passant vers les fenêtres du carrossier. Et à la pension, malgré les pacifiques observations du président de table, les commentaires se croisaient jalousement, querelleurs, comme des fleurets qui se heurtent. Beaucoup de bruit pour rien. La place était prise en effet. Sans rien dire, laissant les autres se disputer, Champ Doré avait sournoisement capté les faveurs de la belle enfant. Il lui avait écrit des poulets enflammés sur du papier bleu parfumé de ylang-ylang. Il avait été implorant, passionné, voluptueux, désespéré. Il avait chanté sur toutes les cordes son troublant madrigal. Il avait posé des heures entières, la nuit, sous sa fenêtre, comme un donneur de sérénade, toussant, transi, bâillant, et ne se décourageant pas. Et elle ne résista pas longtemps. Ils se donnèrent d'abord des rendez-vous, le soir, dans la cathédrale. Elle arrivait tremblante, n'osant relever sa voilette, et ils s'embrassaient au bout des confessionnaux noyés d'ombre. Et à chaque baiser, elle répétait obstinément « Vous me jurez que c'est pour le bon motif. « Mais comment peux-tu croire le contraire, mon ange ?» affirmait Chandoré sans s'interrompre. Cependant, le père faisait bonne garde autour de son héritière. Elle dut inventer des histoires baroques pour pouvoir s'échapper du logis. Et n'osant plus s'attarder dans les églises désertes, elle conduisit Chandoré sous un vaste hangar obscur où le père Carminat enfermait ses voitures. Toutes ces vieilleries entassées, pressées route contre roue, avaient, au milieu des ténèbres vagues, un aspect fantastique. Berlines démigrées, carrosses massifs aux flancs ventrus, aux marchepieds démesurés, briscas légères, cabriolets élégants, elles étaient toutes là, les voitures démodées, ridicules du bon vieux temps. Toutes, même une diligence échouée parmi ce capharnaüm étrange, comme une monstrueuse épave. Une diligence peinte en rouge, pareille à quelque ambulante baraque de saltimbanque. « Mais que nous serons bien là-dedans ? » s'exclama Chandoré. « Oui, qui viendrait nous y chercher ?» ajouta la jeune fille. Et le couple s'installa sans façon dans la rotonde de la diligence. Les deux amoureux ne respectaient pas le sommeil de la septuagénaire guimbarde, et ne quittait plus ce domicile bizarre. Mais la petite se montrait inflexible sur le chapitre des concessions illégitimes, et Chandoré se lassa peu à peu d'entendre la belle balbutier son sempiternel refrain « Vous m'assurez que c'est pour le bon motif ?» Le ciel traînait en longueur et se réduisait à de furtives escarmouches d'avant-poste. La petite Carminade sentimentalisait comme une grisette de murgère. Elle parlait de joie pure, de liens éternels, d'union parfaite. Chandoré se bouchait les oreilles, ne comprenant rien au sermon. Ses baisers s'alanguissaient, devenaient moroses, glacés, paternels. L'amour agonisait tristement. Et un beau jour, le père Caminade, étant venu pour épousseter sa diligence, découvrit le poteau rose et surprit les amoureux au logis. Impossible de nier, impossible de trouver une explication. Le carrossier leva les bras au ciel, bredouilla une complainte indignée, parla de détournement de mineurs, d'honneur outragé et de justice future. La fille piaffait effarée. Chandoré jurait ses grands dieux, mais jamais il n'avait dit plus vrai, que la petite était encore digne d'être couronnée rosière. Enfin, après d'interminables discussions, tout s'arrangea. « Vous vous épouserez, ma fille, vous achèterez la diligence. Choisissez !» disait Caminade, brusquement apaisé. « Bon, ni l'une ni l'autre, » répondit Chandoré. « Alors, préféreriez-vous une bonne plainte au parquet ?» insista le père. « Bon, alors va pour la diligence. Bon, »« Ce n'était donc pas pour le bon motif ?» interrompit furieusement la fille. « Probable, ma fille, » conclut Caminade avec un gros rire ironique. « Mais il te reste ton vieux père, qui vient de placer sa vieille diligence. » Chandoré n'a jamais pu revendre sa guimbarde. Aussi ne manque-t-il jamais une occasion d'attaquer les chemins de fer et d'énumérer les avantages des diligences. Malheureusement, personne ne l'écoute. Quant à Mademoiselle Caminade, elle a épousé un notaire et elle joue volontiers, dit-on, à quatre mains, l'attendrissante chanson de Fortunio.